Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, aujourd'hui dans À voix haute, vous allez entendre le début d'un premier roman, Un jour ce sera vide, de Hugo Lindenberg, paru aux éditions Christian Bourgois en 2020, et ce livre a obtenu le prix du livre Inter 2021. Les méduses. L'enfant est à contre-jour. On distingue à peine son visage encadré par une chevelure lisse de vrai garçon. D'abord, il n'est que la cordelette de son slip de bain rouge ou bleu qui s'approche, jambes graciles, pour observer le spectacle immobile dont je jouissais pour moi seule. Puis-je continuer sans crainte l'auscultation de la méduse à l'aide du bâton? Plusieurs vagues passent, inondant la petite île de chair translucide avant que j'ose tâter de nouveau. Je presse légèrement la peau épaisse, mais ce n'est déjà plus l'essentiel. L'unique chose qui compte est désormais cette présence entre le soleil et moi, un garçon de mon âge. Je me cramponne au bâton, orteils griffés dans le sable mouillé à la recherche d'un appui, tandis que la vague qui ruisselle sur la vague qui se retire me donne le vertige. Tu la retournes ? Nulle trace de défi dans la voix qui m'invite à poursuivre mes investigations. Une familiarité même que je n'attendais pas. Mais je sais qu'il suffit d'une maladresse de ma part, un geste trop craintif par exemple, pour que cesse ce moment de grâce où rien n'existe entre nous sinon un peu de curiosité et cette masse compacte et urticante qui ressemble à un extraterrestre. Chaque seconde nous rapproche du moment où il faudra dévoiler plus de soi qu'on ne voudrait. Alors, sans un mot, profitant de la poussée du ressac, j'exécute la manœuvre. Voilà l'animal sens dessus-dessous, ses longs filaments offerts à la morsure du soleil et à notre innocente cruauté. Je m'accroupis pour discerner dans les méandres gluants ce qui pourrait être une larme, un œil, un visage. L'enfant aussi s'approche, frôlant mon épaule de ses cheveux mouillés dont une goutte froide se détache et coule lentement le long de mon bras. Trajet affolant de ce don de sel sur ma peau. On dirait un sac plastique. Je lève le visage vers celui du garçon qui sourit, qui semble souriant autant que je puisse en juger, tant je suis éblouie. Par le filet de mes yeux plissés, j'aperçois deux grands yeux verts et, entre ses lèvres entrouvertes, l'espace vide laissé par la chute d'une dent. J'imagine dans un flash le cadeau ou la pièce glissée sous l'oreiller épais, le baiser d'une mère, des volets qu'on ouvre sur le chahut d'une famille en vacances. On la remet à l'eau. Les mots sortent plus doux que je ne l'aurais voulu. Je trouve ma voix sotte, comme si elle trahissait une vérité qui me paraît soudain tragique et ridicule. Je n'ai parlé à personne d'autre qu'à ma grand-mère depuis mon arrivée, autant dire depuis toujours. « Allô ?» Le corps se déplie en guise de désapprobation. « Et si on la tuait ?» Je regarde ses pieds à lui, indifférents au sol qui se dérobe sous les vagues, indifférents à l'écume, et j'imagine aux orties, aux ronces et à tout ce qui se croit assez important pour les empêcher d'avancer. Il faut la crever pour voir comment c'est dedans. J'examine l'enfant qui me surplombe dans sa toute puissance. Moi, accroupi, un bâton tordu à la main, le visage déformé par la lumière, et sa demande me paraît d'autant plus légitime que je n'aimerais rien tant que de savoir de quoi il est fait dedans. Lui. De quel fluide magique ses veines sont parcourues pour donner cet éclat mat à tout son être. Alors je me lève, et avec une lassitude de vieux berger, j'enfonce le bâton en tournant dans la masse gélatineuse à l'endroit qui m'a paru le plus tendre. Comme rien ne se produit, je plonge encore la pointe jusqu'à déchirer la bête en deux. Elle est dure, insensible, comme une viande trop coriace morte depuis des millénaires. J'abats un cadavre et la sueur accumulée dans mes cils coule soudain sur mes joues, larmes brûlantes qui effacent l'enfant, la plage et cette méduse que je sacrifie à la promesse d'une amitié estivale. La mouche. Est-ce que, comme une cellule, la méduse peut survivre à sa propre division ? La question flotte à la surface de mon esprit alors qu'immobile sur un fauteuil, j'aspire de minuscules gorgées de jus d'orange pétillant. Avec la paille, j'imite la mouche qui s'abreuve de lymphe sur mon genou, sa trompe plantée dans le petit lac d'une plaie dont j'arrache toute tentative de cicatrisation depuis des jours. Il faut bouger le moins possible, ne pas l'effrayer pour profiter encore un peu de sa présence. Comme avec le garçon qui ne m'a pas donné son prénom, mais que j'ai saisi au vol alors que sa mère le hélait. Baptiste. À cet appel, il a haussé les épaules et m'a dit « À demain !» Comme si on tuait ensemble des méduses à heure fixe depuis des années. « À demain !» Me voilà l'heureux destinataire d'un rendez-vous. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai quelque chose à faire, un projet, une foule de questions aussi. Est-ce qu'il a voulu dire « demain » à la même heure ? Est-ce qu'il a dit « demain » comme il aurait dit « à bientôt » ? Voulait-il dire qu'on allait rejouer ensemble ou seulement se saluer d'un signe de tête? Est-ce lui qui va venir me chercher? Faut-il l'attendre au même endroit? Que va-t-on faire ensemble? Cette rencontre a-t-elle vraiment eu lieu? Tout, jusqu'à l'existence des méduses, semble soudain discutable. Je ne suis même plus certain d'être allé à la plage ce matin. Pour le vérifier, il faudrait aller dans l'entrée voir si les nattes de paille dans le meuble à patère luisent de sable humide, si les sandales de plastique accusent encore leur séjour dans la vase et s'il tombe toujours des gouttes d'eau du maillot de bain, aussitôt transformées en taches blanches et salées par le métal bouillant du balcon. Mais quand bien même je trouverais le courage de traverser l'écrasante masse d'air chaud du salon pour en avoir le cœur net, les nattes, les sandales et le maillot de bain offrirait une résistance immobile, amnésique comme tous les objets qui m'entourent. J'aspire une nouvelle gorgée de jus d'orange. J'aspire tout le jus d'orange jusqu'à faire crisser la paille au fond du verre, histoire de briser le silence. Devant moi s'étalent les rares jouets avec lesquels je tente parfois de faire avancer le temps. Des jouets vieux de tant d'été que je ne souviens pas les avoir jamais désirés. Ils attendent là, comme les casse-têtes d'un ennui dont je ne sais plus comment me démêler. J'ignore vers quel destin pourrait rouler cette voiture rouge, ni de quelles aventures devrait triompher ce soldat articulé. Qui se débrouille ? Je ne peux plus rien pour eux. Toutes mes tentatives finissent invariablement en catastrophe dont les circonstances me laissent un goût de fer rouillé dans la gorge. Que faire d'autre du haut d'un buffet que de sauter quand seul on a survécu à la défaite de son armée. À part accélérer dans le vide, que peut espérer une corvette lancée à plein régime sur une commode? Et cette poupée de chiffon aux yeux cousus de noir ressemble trop à un cadavre pour incarner l'espoir. Alors, je ne fais rien d'autre qu'attendre que ma grand-mère se réveille de sa sieste et que reprenne la valse des tâches ménagères qui rythment nos journées. Petit déjeuner, se laver, s'habiller, déjeuner, dîner, se baigner, se déshabiller, se coucher. Notre vie est une symphonie de robinets qui coulent, de chasses tirées, de bains vidés, de vaisselle lavée, de linge essoré. Et pour se divertir de ce déluge, la mer. 1 milliard de milliards de mètres cubes d'apathie liquide devant lesquels s'ébrouent des familles ordinaires. D'un geste, je congédie la mouche dont l'acharnement a fini par m'irriter. La pendule sonne 15 heures, tandis que mon unique distraction s'envole par la fenêtre. Le baptême. caché sous le parasol, allongé sur une natte, une visière masquant mes yeux, j'observe le balai des familles sur la plage. Mieux, je l'absorbe. L'intimité en plein air révèle quelques-uns des mystères tant convoités de la vie quotidienne des vrais enfants. L'onde paternelle pour laquelle on érige des châteaux, l'embarrassante attention des mères. Mais aujourd'hui, je ne m'abandonne pas totalement. Je guette parmi les tâches lointaines celle qui, en se précisant, dessinera la silhouette de Baptiste, prêt à passer par la lame de mon bâton toutes les méduses de Normandie pour lui plaire. Tu viens ? Le voilà qui se tient devant moi, le soleil dans le dos, m'obligeant une fois encore à lever des yeux plissés vers lui pour ne voir qu'une ombre de son visage. Il m'a surpris, terré, mes jouets dérisoires ridiculement étalés autour de moi, marmonnant pour mes chimères. Mais surtout, il a surpris à mes côtés cette grosse dame en maillot de bain une pièce, le visage profondément ridé, enfoncée sur une petite chaise pliante à motif tournesol, qui tricote à l'ombre d'un parasol usé. Ma grand-mère adorait. Si étrangère à la plage qu'elle ne semble pas affectée par la chaleur. Moi, elle m'accable, mais pas tant que la présence de Baptiste. Debout, ne sachant pas comment me tenir, j'éloigne mon camarade d'une main maladroite, en parlant trop vite de tout ce qui me vient à l'esprit pour saturer le sien et brouiller dans sa mémoire l'image fugace de notre petit campement. Mais je n'ai pas fait deux pas que l'accent de ma grand-mère vient y fixer pour toujours mon étrangeté. « Ne retournez pas trop tard », choisit-elle de dire dans un éboulement de airs sonores et roulés. Baptiste jette un œil par-dessus son épaule, fronce les sourcils, narine légèrement écartée, puis revient à la conversation comme s'il avait mal entendu. Feignant l'indifférence, je continue à l'attirer vers la mer où une rangée de méduses monte la garde devant les vagues. « Tu crois qu'elles sentent la douleur ?» L'assurance avec laquelle, la veille, j'ai déchiqueté le pauvre animal me vaut aujourd'hui un statut tout à fait enviable dans le monde de mon nouvel ami, à commencer par le fait d'être son copain. « J'ai un autre copain, me dit-il, j'ai un autre copain qui sait attraper les serpents. » Je profiterai plus tard de la joie de cette comparaison, tout occupée que je suis par les mille responsabilités qu'impliquent mes nouvelles attributions. À vrai dire, j'ignore tout de la manière dont il faut se comporter avec un vrai garçon. C'est à peine si j'ose croiser son regard. Lui ne semble pas s'en soucier. Tout ce qui l'inquiète, c'est de trouver l'arme idéale pour augmenter notre cadence meurtrière. Je l'observe sans bouger, tandis qu'avec l'entrain d'un jeune chien, il fait des cercles autour de moi en quête d'un bâton. Puis, ayant trouvé son bonheur, le voilà qui agite une tête de poisson mort en psalmodiant dans une langue imaginaire afin d'insuffler à notre petit commerce morbide la noblesse d'un sacrifice rituel. Accroupis côte à côte, nous observons ensuite les effets de la trépanation sur l'organisme fraîchement empalé. « C'est quoi la différence entre une méduse vivante et une méduse morte ? » s'inquiète-t-il. Le mollusque luit au soleil, imperméable à notre curiosité. À trois, on met tous les deux le doigt dessus, dit-il.
À voix haute, Meredith Ledez.
Ce que mon ami ignore, c'est que depuis le début de l'été, le péril urticant des méduses m'a tenu éloignée de l'eau. Leur présence massive sur les côtes, largement commentée par les vacanciers, m'a servi d'excuse auprès de ma grand-mère pour ne pas aller nager et rester avec elle dans le rectangle rassurant d'une natte en osier. Seule avec mes livres et mes pensées, malgré les remontrances qu'elle m'adresse sans même lever les yeux de son tricot. « Tu vas t'esquinter la vue à lire tout le temps. Va à l'eau comme les autres. » Je me demande de quels autres elle parle. « Mais les méduses !» L'incrédulité lui fait claquer la langue. Cependant, elle ne me force à rien. Ma grand-mère ne m'oblige jamais. D'autant qu'elle ne sait pas nager. Parfois, quand la chaleur est trop forte, elle s'approche de l'eau et s'agenouille à la lisière des vagues, comme une vieille paysanne au lavoir pour s'asperger d'un peu d'eau de mer grâce à la coupelle de ses mains. Je devrais avoir honte d'elle dans ces moments-là. Or, c'est tout le contraire, sans que je sache expliquer pourquoi. Mais pas question d'en parler à Baptiste. Encore moins de la peur des méduses. Il faut un peu de courage pour être un vrai garçon. Alors que j'approche, résignée, l'index de l'amas gélatineux, Baptiste attrape mon poignet. « T'es fou, elle va te piquer. Viens, on va nager. Ce serait idiot de se brûler. Ma mère dit que ça fait un mal de chien et qu'il faut pisser dessus. Non, merci. » Il se lève et, sans lâcher mon poignet, m'entraîne dans les vagues. Je serpente à son bras comme un foulard au vent, si léger que je ne me sens pas rentrer dans l'eau. Me voilà immergée jusqu'aux cuisses. Bientôt, l'eau glaciale me ceinture et deux vagues plus loin, elle s'enroule à mon cou. Et c'est l'une des choses les plus agréables qui soit. Cette fraîcheur enfin dans mon corps. Baptiste me fait face. Les algues de ses cheveux dansent sous la surface quand il plonge la tête sous l'eau, sa main toujours dans la mienne. Il rejaillit les yeux brûlants de sel, la tignasse aplatie, et m'invite d'un coup de menton à l'imiter. Alors, je remplis mes poumons et les yeux fermés de toutes mes forces, je me laisse couler à mon tour. C'est comme une explosion de silence et de fraîcheur qui emporte le monde et mon corps. Toute la pesanteur emmagasinée depuis des jours se déverse dans les profondeurs. Mes 10 000 tonnes de solitude avalées dans le ventre de la mer. Il n'y a plus d'avant, plus d'après. Et ne serait-ce la mare délicate du bras de Baptiste me rappelant au monde de la surface, je me laisserais emporter par la berceuse des vagues, loin des fièvres de l'été. Le bain. Il faut maintenant compter avec Baptiste, même quand il n'est pas là. Je ne peux plus rester immobile des heures entières sur le canapé du salon à respirer le moins d'oxygène possible, ni relire encore une fois ce vieux numéro de Picsou Magazine que j'ai usé jusqu'à l'écœurement. Je ne suis plus sûre non plus d'aimer mon vieux t-shirt Italian Boy, rapiécé sur demande express par ma grand-mère. À vrai dire, je ne suis plus sûre de rien. Je ne sais pour le moment que très peu de choses sur mes nouveaux goûts. Je ne veux plus entendre parler de boissons gazeuses. Baptiste n'aime pas ce qui pique. Et je rêve de voir le mont Fuji, son rêve à lui. Dans l'attente de nouvelles indications, je tâche d'être le plus digne possible, ce qui n'est pas évident, vu que ma grand-mère a tout faux, absolument tout le temps, sur à peu près tous les sujets. Par exemple, elle ne cesse de me réprimander à propos de mon nouveau tic. Or, ce n'est pas un tic, mais le spectacle le plus chic auquel il m'ait été donné d'assister. Il s'agit de souffler depuis l'extrémité droite de ma lèvre inférieure en direction de mon œil tout en relevant la tête d'un geste sec. C'est ce que fait Baptiste pour remettre en place la mèche qui couvre parfois son œil droit. Une chose qui n'appartient qu'à lui et que j'imite comme une prière devant le miroir de la cheminée dans la chambre que je partage avec ma grand-mère. Elle est immense, tellement grande qu'elle pourrait presque compter comme 2 pièces. Et mon matelas est assez loin de son lit, mais quand même, je n'aimerais pas que Baptiste soit au courant que je couche dans la chambre de ma grand-mère. Pas plus que je n'aimerais qu'il sache qu'il faut passer par la salle de bain pour y accéder. Il y a, quand j'y pense, beaucoup de choses que je préférerais que Baptiste ignore, et pas seulement à propos de la maison. Pour le moment, je me suis contentée de lui montrer le bâtiment dont on aperçoit le toit d'ardoise depuis la plage. Moi, j'habite là, en désignant la Villa Magnolia, dont nous n'occupons qu'un étage sur les trois que compte la grande bâtisse normande. Lui aussi m'a indiqué l'endroit où il passait ses vacances, embrassant d'un geste désinvolte les immenses blocs de craie qui forment les falaises des Vaches Noires, comme s'il s'agissait de ses terres. Alors, j'ai imaginé qu'il vivait dans une demeure coloniale, comme celle que l'on voit dans les films où de riches Américains se réveillent dans des lits hauts comme des tables et regardent le soleil se coucher depuis le porche en soufflant sur leurs mèches rebelles. « Arrête avec ce tic !» s'agace ma grand-mère, alors que je tente d'éloigner avec grâce l'excès de mousse qui menace mes yeux, tandis qu'elle me shampooine avec amour, assise sur le rebord de la baignoire. L'un des rituels les plus voluptueux du couple que nous formons avec cette femme mutique. À l'aide d'un broc en plastique jaune ouvert, elle fait couler l'eau brûlante sur mon crâne renversé en arrière. Une fois, deux fois, autant qu'il faut pour que mes cheveux grincent de propreté, répandant l'eau savonneuse sur mes épaules en une onde exquise qui me fait frissonner de bien-être. Il n'y aura plus ensuite qu'à se laisser glisser de la serviette au pyjama, du pyjama au lit, pour rêver à la promesse d'une nouvelle rencontre avec Baptiste. Les familles. Quand papa m'emmène au cinéma, je dois mesurer mon enthousiasme parce que je vois bien la déception dans son regard quand je dis en sortant que c'est mon film préféré. Mon père est souvent déçu. Jamais autant que la fois où je lui ai dit que je voulais être un chat, mais quand même. Qui veut la peau de Roger Rabbit n'a apparemment pas les qualités requises pour être un film préféré, La Rose pourpre du Caire non plus. Pourtant, La Rose pourpre du Caire, j'y repense souvent en ce moment. Ça raconte l'histoire d'une femme malheureuse qui va tout le temps au cinéma voir le même film pour oublier son existence morose. Un jour, son personnage préféré sort de l'écran et vient à sa rencontre dans la vraie vie. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec Baptiste. Jusqu'à notre rencontre, j'allais à la plage pour le spectacle des familles. Je posais ma serviette un peu au hasard, et pendant que ma grand-mère tricotait à côté de moi, je m'installais pour espionner une famille. En général, il y en avait deux ou trois à une distance idéale pour que je les entende bien. Si j'avais de la chance parmi elles, il y en avait une avec des enfants de mon âge. Les couples et les gens seuls m'intéressaient moins, parce que ce qui excitait ma curiosité, c'était de voir des parents avec leurs enfants. Le quotidien banal d'une famille normale. Parfois, prétextant un problème lié à la position du soleil ou l'impossibilité de lire causée par le transistor de ma grand-mère, je m'éloignais un peu pour me rapprocher d'une famille paraissant digne d'intérêt. Pour le savoir, j'avais un truc infaillible. Si j'avais une pierre dans le ventre en les regardant, c'est que ça valait le coup. En général, une mère un peu potelée qui portait des bijoux me faisait une pierre dans le ventre, des enfants qui avaient l'air heureux et c'était le rocher. Ensuite, il fallait faire attention à ne pas se faire remarquer. En principe, j'étais presque invisible. Un garçon de 10 ans avec une vieille dame, ça n'attire pas vraiment l'attention. Je faisais quand même mon possible pour rester discret, visière sur les yeux, livre grand ouvert devant le visage, mais au bout de quelques minutes, j'oubliais, je m'oubliais. Il ne restait plus que mon regard avide et ma mâchoire relâchée. Sans doute un peu effrayant, à en juger par les œillades que m'envoyait parfois un père intrigué ou un ado inquiet. Mais que pouvait-il voir en moi à part un enfant un peu attardé, bavant sous la houle ? Ce qui me paraissait bien moins honteux que la vérité. La vérité, c'est que j'absorbais tout ce que je pouvais jusqu'à devenir l'air autour d'eux, jusqu'à être aspiré dans leurs poumons, puis recraché, puis aspiré encore pour saisir l'essence même de leur bonheur. J'aurais bu leur sang si ça m'avait permis de comprendre ce que c'est que d'avoir une famille comme les autres. Une mère qui vous passe de la crème solaire dans le dos, un père qui vous borde le soir en vous racontant une histoire. Il y avait cette famille en particulier que je suivais depuis le début des vacances. Une famille cabine. Le père, qui était très poilu et portait une barbe, ne cessait jamais de bouger, d'aller chercher des choses, de revenir, décrivant une orbite perpétuelle et anarchique autour du carré de serviettes familiales. Quand il ne faisait pas un footing avec elle, il aidait sa fille à construire un château ou apprenait le crawl à son fils, riant toujours, comme s'il s'agissait d'un jeu. Et à bien y réfléchir, il s'agissait bien de jeu, mais cela n'avait rien d'évident pour moi. La mère, elle, ne s'occupait pas vraiment des enfants. Elle les regardait toujours en plissant les yeux à la manière des myopes, comme si elle tentait de les distinguer au loin, et cela même quand ils se tenaient à quelques centimètres d'elle. Assise en tailleur, elle passait des heures à écrire dans un grand cahier à l'ombre d'un petit parasol bleu ou noir. Des cailloux piochés dans un grand sac clouaient au sol serviettes et feuilles volantes. Elle se moquait de la plage et ça me plaisait. La plupart du temps, elle gardait par-dessus son maillot de bain une robe de lin bleu ou beige et sur la tête un immense chapeau qui projetait ses épis de paille sur le sable. Seul le cahier comptait. Régulièrement, un de ses enfants s'approchait trop près, projetant du sable ou même de l'eau de mer sur son travail, et ça la faisait toujours rire. Elle plissait un œil incrédule et paraissait ravie de découvrir que le petit être qui venait de l'éclabousser était son enfant. Elle lui faisait signe d'approcher, négligeant soudain son cahier et ses feuilles qui pouvaient bien alors s'envoler, ça lui était égal. Elle fourrait le visage dans les cheveux de l'enfant, y prenait une grande inspiration. Contente peut-être d'y retrouver son odeur, ou celle de son mari, qui venait lui aussi parfois l'interrompre, allant jusqu'à la renverser sur le sable et s'allonger de tout son long trempé sur elle pour l'embrasser. Et ça non plus, ça n'était pas grave. Ça les faisait rire tous les quatre. Pas un d'entre eux ne se souciait des feuilles dispersées au gré du vent. J'avais espéré en ramasser une. Alors, je me serais levée pour lui rapporter, et pendant qu'elle m'aurait souri avec indifférence, j'aurais pu sentir son parfum. C'était Un jour ce sera vide, le premier roman de Hugo Lindenberg paru chez Christian Bourgois en 2020, prix du livre Inter 2021. Et comme interlude musical, vous avez pu entendre Aquarium, un extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Cette émission était réalisée, comme toujours, par Frédéric Guillon. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle émission à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.